Dans le train, nous calquons notre attitude sur celle des autres passagers. Nous achetons des bento, des canettes de bière Kirin et nous ripaillons. La télévision française a bien fait les choses en nous réservant des chambres dans un véritable hôtel tokyoïte. Nous nous retrouvons chacun dans un cagibi si exigu qu'il faut choisir entre ouvrir sa valise ou la porte des toilettes. Je choisis de ne pas choisir et je m'endors. Je me réveille en pensant que je suis à Tokyo, la ville des folles aventures de ma jeunesse. D'un bond naturel, il me faut un certain temps pour me rappeler que j'y ai aussi connu la stupeur et les tremblements de l'entreprise. Qu'importe, je suis enchantée d'être là. Sauf en été, Tokyo a le meilleur climat du monde, splendide et sec. En ouvrant les rideaux, je reconnais ce ciel. Il fait beau et c'est l'habitude. Dans la rue, je vois se promener un authentique proxénète, identifiable à son manteau de fourrure vert émeraude, à sa chemise noire et à sa cravate blanche. Ce signe de la permanence des choses intensifie mon excellente humeur. Tokyo, c'est d'abord un rythme, celui d'une explosion parfaitement maîtrisée. Quand on y revient après une longue absence, on doit s'isoler quelques secondes en une sorte d'apesanteur pour réatterrir dans le tempo. Dès que les pieds sentent la pulsation, on y est. J'y suis. L'équipe m'emmène dans le quartier des affaires. Je tombe des nues. Shinjuku, il y a 20 ans, me paraissait l'avant-garde du business. À présent, on dirait une base interplanétaire. Je croyais que la crise aurait freiné les changements. C'est le contraire. On ne croise ici que des cols blancs. Plus exactement, on ne croise pas grand monde, puisque ces gens travaillent. De tels lieux semblent avoir été conçus pour qu'on y tourne des clips. Et c'est un peu ce que le réalisateur fait avec moi. Nous inventons le clip de stupeur et tremblement. Nous montons au sommet d'un gratte-ciel et je suis filmée en train de me jeter dans le paysage. Tokyo vu de haut. Il n'existe pas plus vaste panorama urbain. Comme une nuée voile les montagnes environnantes, on a l'impression que la ville n'a ni commencement ni fin. Au centre, la titanesque protubérance du palais impérial, entourée de son jardin et de ses douves, figure la tête chevelue de ce corps écorché. Le reste est la peau, tissu hérissé d'immeubles dont la taille varie en fonction des zones, qui s'étend à bord perdu. De retour sur Terre, nous nous rendons à Harajuku, le quartier des jeunes avant-gardistes. Le paradoxe de l'avant-garde est une certaine permanence d'aspect. Je reconnais lieu et gens. Les adolescents qui peuplent ces rues n'étaient pas nés quand j'habitais Tokyo. Mais ils sont les mêmes, à quelques détails vestimentaires près. Ici, s'habiller en geisha gothique est la moindre des choses. C'est presque déjà réactionnaire. Chacun vient arborer le look qu'il a inventé. L'esprit est celui de la franche monstration, ce que je trouve sympathique. On a le droit de contempler ces individus qui veulent être vus. Ceux que j'avais dévisagés à Harajuku il y a 20 ans sont tous rentrés dans le rang depuis. Quand ils ont atteint l'âge fatidique de 25 ans, ils ont troqué leur dégaine hallucinante contre un costume ou un tailleur assorti à leur coiffure plus sage. Ils ont été embauchés dans des entreprises, malgré l'achèvement de la bubble economy, et ils ne font plus parler d'eux. Yumeto a 22 ans. Je m'adresse à lui comme à un échantillon représentatif et je lui demande si cette génération tokyoïte, à l'exemple de la précédente, va se soumettre. Les autres, je ne sais pas, mais mes amis et moi, jamais, répond-il. Ce propos me rassure. Je ne m'ennuie pas quand je regarde passer les gens. C'est encore plus vrai quand ils sont japonais. À Harajuku, chacun est spectacle. Comparé aux tokyoïtes, les excentriques du reste de la planète sont de petits joueurs. À la tombée du soir, nous allons dans un bar à oxygène du côté de Kabukicho. Il s'agit plutôt d'une série de couveuses. On nous fait signer une vingtaine de dérogations selon lesquelles nous acceptons de mourir au cours de cette expérience et on nous installe chacun dans un caisson où nous sommes bombardés d'un excès d'oxygène une heure durant. Une hôtesse vêtue en infirmière vient fermer nos caissons en nous annonçant que nous allons éprouver des hallucinations du plus haut intérêt. Elle nous avertit qu'en cas de panique, nous pouvons appuyer sur le bouton rouge. Au terme des 60 minutes, aucun bouton rouge ne s'est allumé. Nous échangeons nos témoignages. Yumeto et moi avons aussitôt sombré dans le sommeil. La réalisatrice a senti monter une crise de claustrophobie contre laquelle elle a lutté par la méditation. Quant au réalisateur, il a passé l'heure à se demander où il avait oublié le rouleau de gaffeur.